face à l'urgence écologique, que doit-on faire ? Déserter ou agir de l'intérieur ?
Cette question, on se l'est tous posée. Qu'on soit étudiant, lanceur d'alerte, dirigeant, militant, syndicaliste, investisseur, on a tous connu ce moment où on s'est demandé comment agir, quelle voie privilégier pour avoir le plus d'impact, quelle stratégie adopter pour arriver à ses fins. Bienvenue dans le podcast « C'est maintenant ou maintenant ». Vous apprêtez à passer une quarantaine de minutes en compagnie d'activistes qui secouent le monde du travail et qui cherchent à transformer l'entreprise. Ils le font de l'intérieur ou de l'extérieur, avec plus ou moins de radicalité. Nous allons essayer de comprendre qui sont celles et ceux derrière ces mouvements, ce qu'ils font concrètement, la façon dont ils s'y prennent, pour quels résultats. Prendre du recul pour y voir plus clair sur ce que ces mouvements racontent de notre époque, savoir s'ils sont porteurs d'un sursaut ou si l'histoire se répète, et vous aider à trouver votre voie dans l'action collective.
Quand l'espoir meurt, l'action commence. Et l'action commence maintenant.
Aujourd'hui, nous recevons Anne Lecor du Printemps écologique. L'initiative Printemps écologique a été lancée à Paris le 1er mai 2020 par un collectif de 50 bénévoles sous la forme d'une association d'intérêt général pour promouvoir l'élargissement des négociations collectives à l'impératif écologique. Depuis, le Printemps écologique est devenu une fédération, c'est-à-dire une union de syndicats professionnels couvrant les territoires français d'outre-mer. Elle s'appuie sur des élus qui représentent le personnel dans le secteur privé et dans le secteur public. Son intention est de représenter celles et ceux qui agissent pour une économie plus résiliente et plus juste. Dans les statuts, on peut lire que le Printemps écologique s'engage dans chaque organisation pour une conversion de l'appareil productif qui concilie impératif écologique et justice sociale. En complément de la défense des conditions de salaire et de protection sociale, ils veulent ouvrir des négociations sur les conséquences du travail dans tous ses aspects, climat, biodiversité, pollution. En résumé, ils disent œuvrer sur le terrain pour transformer notre économie destructrice en économie inclusive. Et pour ce faire, ils souhaitent faire entrer le travail dans un nouvel âge. Le Printemps écologique, c'est aujourd'hui une présence dans plus de 170 entreprises grâce à quelques centaines de membres quotidiens et élus répartis dans 12 syndicats sectoriels. Anne fait partie de l'équipe historique qui a lancé le Printemps écologique et s'occupe aujourd'hui à plein temps du développement et de l'organisation de la fédération. Pour discuter avec elle, Alexandre Monin. Il est docteur en philosophie, il a travaillé plus d'une quinzaine d'années sur le numérique et depuis près de 10 ans sur les questions écologiques. Il est aujourd'hui directeur du master de l'ESC Clermont et Strat École de Design, Stratégie et Design pour l'Anthropocène et directeur scientifique d'Origens Media Lab, laboratoire de recherche indépendant et interdisciplinaire en sciences humaines et sociales, qui se propose d'enquêter sur ce qui se joue réellement derrière la crise écologique, comprise comme une mutation anthropologique. Avec ses collègues Emmanuel Bonnet et Diego Landivar, ils ont écrit un livre, Héritage et fermeture, une écologie du démantèlement, qui présente leur approche, la redirection écologique. Il n'est pas spécialiste du monde syndical, mais observe les entreprises qui se transforment et les routes à emprunter dans le contexte de l'anthropocène. Et c'est à ce titre que nous avons imaginé de proposer à Anne et Alexandre de se rencontrer aujourd'hui. Je suis Ingrid Kandelman et notre discussion commence maintenant. Et pour démarrer, Anne, j'aurais voulu vous demander si vous aviez un exemple un peu emblématique à nous raconter d'une action que vous avez menée, qui vous semble à l'image de ce que vous essayez de déployer dans les organisations et dans les entreprises.
Bonjour à tous. Alors les exemples, ils sont multiples, nombreux, et c'est vrai que quand on parle de la transformation des entreprises, il y a absolument tout à faire et tous les sujets à traiter. Donc ça peut à la fois donner un peu le vertige, mais c'est aussi extrêmement enthousiasmant. Et donc, moi en tête, par exemple, j'ai ces adhérents Printemps écologique qui ont, lors d'un projet immobilier qui est de bureaux, qui était censé relocaliser des bureaux pour à peu près 1200 personnes, des élus qui se sont mobilisés contre ce projet en disant, voilà, aujourd'hui, l'entreprise ne nous donne pas l'étude d'impact de ces nouveaux bureaux et surtout de leur impact environnemental. Donc, ce qui s'est passé, c'est que l'entreprise s'est retrouvée face à cette nouvelle obligation qui est amenée par la loi climat et résilience, et les représentants se sont positionnés dans une démarche de co-construction en se posant la question de quelles pouvaient être les propositions et les axes d'analyse des impacts de ce nouveau projet immobilier. Et ça a débouché sur 14 propositions qui ont été ensuite reprises par la direction pour revoir en fait l'ensemble de ce projet immobilier-là. Donc en fait, c'est des moments comme ça où on se dit en fait oui, on a un impact, les salariés et les représentants du personnel et les syndicats en fait se mobilisent. Et derrière, ce qui se passe, c'est que ça fait rentrer l'entreprise dans une nouvelle démarche qui est de vraiment prendre en compte de façon très transverse sur tous ces nouveaux projets l'impact environnemental. Ça a ensuite débouché sur la mise en place d'une commission environnement. Mmh. Et donc, c'est le moment où on commence à vraiment institutionnaliser cette prise en compte de l'impact avec des budgets, des gens qui sont dédiés sur ces sujets. Donc là, on commence vraiment à avoir une transformation un peu systémique de cette entreprise-là sur ces projets.
Et les 14 propositions dont vous parlez, elles avaient pour vocation de transformer sur la question environnementale le projet tel qu'il était présenté, de le freiner, quelles étaient un peu les ambitions de ces propositions-là ou de ces contre-propositions ?
Alors, c'était des propositions surtout pour venir questionner déjà l'utilité, ensuite l'endroit où ça allait être mis en place, les modalités de mise en place aussi. C'est des questions très aussi concrètes. Hein. Qu'est-ce que veut dire la mobilité de ces 1200 salariés quand ils vont aller dans ces nouveaux locaux ? Quels vont être l'impact, ne serait-ce carbone, par exemple, de tous ces salariés qui vont se déplacer dans ce nouvel endroit. C'est des choses très concrètes, en fait, vraiment, et aussi pilotées par l'impact. C'est pas forcément une mauvaise volonté de la direction dans ce cas précis. C'est plutôt une méconnaissance aussi de la loi climat et résilience qui arrive avec des nouvelles obligations. Et donc, les syndicats ont eu ce rôle, en quelque sorte, de co-construction et de dire « Attendez, voilà, il y a telle obligation, il faut qu'on s'y contraigne et voilà ce qu'on peut construire ensemble à partir de ça. »
J'avais envie de vous faire écouter un extrait. Vous allez reconnaître la voix de Pablo Servigne, qui est ingénieur agronome de formation et aujourd'hui conférencier et auteur lors d'une marche climat.
En fait, il y a une incompatibilité radicale entre notre système économique et politique et la biosphère. L'un ou l'autre doit mourir.
Je vous passe ce petit extrait pour qu'on continue à creuser ensemble ce sujet et bien comprendre votre positionnement. Est-ce que vous direz que le printemps écologique, il a vocation à accompagner les entreprises et à progresser dans la trajectoire qu'elles se sont données ou qu'il a vocation à les pousser à se poser des questions plus compliquées de renoncement, de redirection écologique ? Et finalement, où est-ce que vous vous situez peut-être à l'intérieur de cet échiquier ?
Alors c'est marrant parce que Pablo Servigne, c'est quand même la personne qui a provoqué mon déclic écologique, et je pense qu'il l'a fait pour beaucoup beaucoup de gens, mais je pense que c'est les deux, c'est exactement les deux, c'est-à-dire que en fait on doit transformer fondamentalement les modèles d'affaires des entreprises, parce qu'il y a certains modèles qui aujourd'hui créent des dommages irréparables qu'on doit stopper absolument. Et donc c'est venir questionner en fait ce qui est produit en termes de services, d'objets aussi par les entreprises. Et donc c'est aussi en fait anticiper les conséquences sociales de ces transformations fondamentales de modèles. Comment est-ce qu'on va prendre en compte l'évolution des métiers de certaines personnes, des métiers qui vont potentiellement disparaître. Enfin voilà. Évidemment les deux sont intrinsèquement liés.
Alexandre, est-ce que vous avez envie de réagir ? Vous évoquez la question de la redirection écologique. Comment vous positionnez par rapport à cette citation de Pablo Servigne et puis à la réaction d'Anne ?
Oui, alors deux choses peut-être. Sur la citation de Pablo Servigne, je ne suis pas sûr qu'il faille choisir entre la biosphère et puis la technosphère. On n'est pas en fait dans ce choix-là, parce que la technosphère, elle est là, elle pèse plus aujourd'hui que la biosphère. Donc évidemment, on ne peut pas la faire perdurer telle qu'elle. Mais la situation présente, c'est que nous sommes devenus autant dépendants, malheureusement peut-être, de la technosphère, que de la biosphère. Donc on ne peut pas simplement dire on quitte la biosphère parce qu'elle nous tue. C'est vrai qu'à court terme, j'aime bien dire qu'on est dépendant de la technosphère, on ne peut pas en sortir d'un coup d'un seul, donc aussi des entreprises, des modèles d'affaires des entreprises qu'évoquait Anne tout un ensemble de choses qu'on ne peut pas en même temps faire durer telles quelles à moyen terme. Mais il faut trouver une ligne de crête entre les deux. Ce n'est pas le choix de l'un ou le choix de l'autre, c'est trouver une ligne de crête entre les deux, c'est arriver à nous désattacher progressivement de cette technosphère et apprendre tout simplement à le faire, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les savoirs tout simplement pour le faire. Donc, je tiquais un peu par rapport au choix binaire qui nous était présenté. Et donc, ça veut dire que si on ne peut pas maintenir le business as usual tel qu'il est, si on ne peut pas maintenir effectivement l'ensemble des activités, notamment des entreprises, mais des organisations en général, ça veut dire qu'effectivement, il va falloir opérer des arbitrages, il va falloir opérer des renoncements. Et c'est ça peut-être qui distingue principalement la redirection écologique d'autres approches où on essaye finalement de verdir l'existant en considérant qu'on va pouvoir le maintenir. Qu'il faille rendre nos systèmes plus efficients, c'est une chose, ce ne sera pas suffisant, et donc vont se poser la nécessité d'opérer des arbitrages, et toute la question c'est à quelles conditions et comment on arrive justement à opérer ces arbitrages. Et effectivement, dans nos discussions avec des entreprises, mais aussi des collectivités publiques et d'autres acteurs, on discute de comment est-ce qu'on peut soit opérer des arbitrages quand on voit que c'est nécessaire, type la neige effectivement va disparaître dans certains territoires de montagne, et donc il faut anticiper la fin de certaines activités comme le ski, comme le tourisme autour des stations, etc., etc. Et puis dans d'autres cas, il faut anticiper ces arrêts, parce que si on continue sur certaines activités, eh bien ça va détruire tout simplement nos conditions d'existence. Et je pense ici évidemment à toute la législation autour du ZAN, du zéro artificialisation nette aujourd'hui, où finalement on anticipe le fait qu'il faut arrêter de détruire les sols plutôt que d'éviter de rencontrer le mur, on aurait trop artificialisé, et à ce moment-là on choisirait de renoncer. Donc soit on est contraint à renoncer, soit il faut l'anticiper, mais dans les deux cas, on n'a pas aujourd'hui, les entreprises n'ont pas les outils finalement pour traiter ce type de questions. Et c'est vrai qu'un des enjeux aujourd'hui du point de vue de la redirection, c'est comment est-ce qu'on associe les salariés à partir de leur savoir existant pour prendre en charge aussi ce type de questions, de problématiques.
Je suis complètement d'accord avec ce que dit Alexandre, et notamment cette question de comment est-ce que moi, en tant que salarié dont le métier va fortement évoluer, voire en grande partie disparaître, je peux utiliser mes compétences aujourd'hui sur mon métier pour faire un métier de demain, et où est-ce que mes compétences vont s'appliquer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout dire, en fait, on détruit tout et on reconstruit tout d'un côté, quoi. C'est vraiment se poser la question de je suis fier de mon métier, de mes compétences, ou est-ce qu'elles peuvent s'appliquer ailleurs pour une transition écologique durable, quoi.
Mais est-ce que vous avez, par exemple, une ligne sur certains sujets, j'en sais rien, si on prend la loi climat et cette obligation de parler de la question environnementale dans l'entreprise, est-ce que vous avez une ligne que vous communiquez ensuite aux salariés, aux représentants des salariés qui sont adhérents à votre fédération, pour leur dire voilà comment on prend ce sujet chez nous et on déploie de telle ou telle façon cette thématique, ou est-ce que vous avez une approche un peu différente?
Alors, on est au tout début, hein, donc on a mais depuis le début du printemps écologique, nous, le point, c'est de dire, c'est les salariés qui portent les sujets. Ils les portent comme ils veulent et avec la puissance qu'ils veulent, parce que c'est eux qui sont sur le terrain et c'est eux qui sont légitimes d'aborder ces sujets-là. Nous, c'est vraiment accompagnement, support, mise en réseau, échange, et donc on va essayer de mettre à disposition des adhérents toute la boîte à outils, la panoplie de ce qui peut leur être utile. Et donc, on n'a pas de ligne, en fait. C'est les salariés sur le terrain qui donnent les ambitions de ce qu'ils ont envie de porter, quoi.
Je m'interroge un peu sur la capacité qu'on a à concilier la question sociale et la question écologique à l'échelle de la vie professionnelle, en fait, d'un salarié et à l'échelle d'une entreprise. On sait qu'on a des intérêts communs, qu'il n'y a pas d'emploi sur une planète morte, mais est-ce que dans un temps court, on sait vraiment le gérer ?
Je vois plein d'entreprises aujourd'hui qui produisent, par exemple, je ne vais pas en citer, mais j'ai travaillé avec l'une d'entre elles qui produit un produit phare, on va dire, que tout le monde connaît. Et on a travaillé avec une dizaine d'employés, de middle managers de cette entreprise, en se disant, bon, vers quoi on peut se projeter si on arrête demain de produire ce produit-là. Et en fait, on a vu qu'en listant un peu les actifs de cette entreprise, mais aussi les compétences en interne, etc., etc., ben on pouvait remobiliser à la fois ses actifs et les salariés pour faire autre chose, proposer d'autres services beaucoup plus finalement en accord avec le monde dans lequel on va vivre demain, ou avec le monde dans lequel on pourrait ou on devrait vivre demain. Et ça, je pense qu'on peut le faire très largement à l'échelle de toutes les organisations aujourd'hui. Du coup, c'est vrai que dans le cadrage qui est posé souvent, on a l'impression que les salariés sont presque des actifs échoués, finalement, des entreprises. C'est-à-dire, on les voit uniquement comme des gens qui n'ont pas les bonnes compétences, qui sont dépassés, etc., etc. En même temps, on dit, voilà, il y a des centaines de milliers d'emplois qu'il va falloir pourvoir, on n'a pas les compétences, les gens actuellement n'ont pas les bonnes compétences non plus, et puis c'est le grand écart entre les deux, on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. Les gens qui sont aujourd'hui salariés, ou autres, hein, parce que le travail n'est pas que le travail salarié, donc les travailleurs et les travailleuses aujourd'hui ont des compétences, peuvent être mobilisés sur le démantèlement des activités présentes parce qu'ils et elles les connaissent, donc là-dessus ça peut être aussi des acteurs de ces processus-là. Et puis, par ailleurs, ces personnes ont aussi une vision de ce qui ne fonctionne pas dans leur entreprise, dans leur secteur, dans la production du produit qu'ils et elles produisent, des savoirs un peu inconfortables sur lesquels aussi on peut s'appuyer pour justement transformer ces activités, éviter de refaire les mêmes erreurs et s'appuyer là-dessus justement pour opérer ces redirections. Donc pour moi, ce cadrage en termes d'actifs échoués, il est extrêmement problématique. Il faut qu'on rompe avec ça.
Et de mon côté, moi je vois aussi ça comme... une vraie question de justice sociale, notamment parce que ce qui se passe, le dérèglement climatique, va impacter les conditions de travail d'énormément de travailleurs et travailleuses. Et là, on a un vrai problème. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des évolutions de compétences, les salariés peuvent être acteurs de la transformation de leur métier et imaginer les métiers de demain et comment est-ce qu'ils peuvent être utiles en termes de compétences, comme le disait très bien Alexandre. Mais... il faut aussi qu'ils se posent la question et qu'on arrive à se mettre autour de la table pour se dire, en fait, comment est-ce que dans des métiers du BTP, dans des métiers de l'agriculture, on s'adapte en fait aussi au changement climatique, à une canicule, comment est-ce que les conditions de travail sont adaptées et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il n'y ait pas des victimes de ces dérèglements et que ces gens soient acteurs aussi de l'évolution de leurs conditions de travail.
Est-ce que ces cartographies-là, elles sont réalisées aujourd'hui par les entreprises ? Cet état des lieux des impacts, des stratégies d'adaptation, des stratégies de transition, est-ce qu'il est fait ? Est-ce qu'il est partagé avec les partenaires sociaux ?
Si je parle au niveau de l'entreprise, de ce que je vois avec le printemps écologique, non. C'est très simple, c'est qu'on en est au niveau de se dire, on va sensibiliser... les salariés à la question du changement climatique. Et on ne parle pas tellement de biodiversité. Enfin voilà, il y a plein d'autres sujets qui ne sont même pas abordés. Donc on en est là. Donc il y a un premier sujet de vraiment se poser au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau transsectoriel. Parce que ce qu'on sait, c'est que tous les systèmes de formation sont vraiment pensés de base par secteur. Et donc, quand on se dit qu'il va y avoir des destructions d'emplois dans certains secteurs et des créations d'emplois dans d'autres secteurs, et qu'il n'y a aucun pont au niveau de la formation, notamment entre ces secteurs-là, on voit bien qu'il y a un problème. Et donc, c'est pas pensé au niveau de l'entreprise, c'est pas pensé au niveau sectoriel, et au niveau national, je vois pas encore de plan de planification d'évolution des compétences qui soit suffisamment ambitieux avec les budgets qui vont bien, quoi. Donc, j'ai pas l'impression que ce soit suffisant et je pense que ça va faire beaucoup de victimes.
Oui, peut-être pour enchaîner là-dessus, comme disait Anne, je pense effectivement, en tout cas, c'est pas l'angle d'entrée privilégié pour les entreprises pour aborder ces questions. Hein. Vaut mieux essayer de penser le devenir des organisations au regard de ce que vont être les conditions d'habitabilité demain. Donc, c'est-à-dire, quelle activité on va pouvoir maintenir dans le monde de demain, qu'est-ce qui va faire sens, qu'est-ce qui ne fera pas sens, comment est-ce qu'on peut l'anticiper. Et à partir de là, éventuellement, on peut déclencher une réflexion stratégique qui va au fond des choses et qui va permettre de ramener la question du travail au cœur de l'enquête, finalement. Mais ça ne va pas forcément être l'angle premier. Ça, c'est une certitude. Donc oui, on a besoin d'en passer par d'autres types de réflexions pour arriver à mettre sur le devant de la scène cette question du travail et ou de l'emploi. Et puis, je pense qu'il faut réfléchir aussi au fait qu'aujourd'hui, on n'arrive pas déjà dans le temps présent à valoriser des emplois ou du travail qui aujourd'hui est fondamental, qui va l'être encore plus demain. Il n'y a pas seulement la question de la création de nouveaux emplois demain, mais il y a par exemple des questions sur comment est-ce que demain on va maintenir des infrastructures qui sont aujourd'hui problématiques, qu'on ne va plus forcément utiliser demain, comment est-ce qu'on va basculer par exemple vers des économies de la réhabilitation, de la maintenance, dans certains secteurs en particulier, mais en fait sans doute dans tous les secteurs, en tout cas ce sont des dimensions qui vont prendre de plus en plus d'importance dans tous les secteurs, et on sait que ce sont des tâches aujourd'hui qui ne sont pas tellement reconnues. Donc il y a une question déjà aujourd'hui à qu'est-ce qu'on valorise comme métier actuellement qu'on va devoir également dévaloriser ou revaloriser demain. Donc là aussi, il y a une bascule qui va devoir s'opérer. Donc, c'est la question des nouveaux emplois, mais c'est la question aussi de la valorisation de certaines tâches aujourd'hui qui sont encore minorées et qui demain vont prendre une importance très grande.
Et peut-être juste pour compléter, parce qu'il faut, je prêche aussi pour la chapelle, la grande chapelle du syndicalisme. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est aussi un des rôles des syndicats de co-créer, de penser ces formations, en fait, que ce soit au niveau de l'entreprise, au niveau sectoriel ou au niveau national. Donc en fait, c'est aussi les syndicats qui doivent porter cette question-là, parce que en fait, on voit que la volonté politique n'est pas forcément encore là suffisamment sur ces sujets. Mais du coup, sur la formation, il faut que les syndicats soient beaucoup plus impliqués qu'aujourd'hui sur ces sujets, quoi.
Quand vous dites les syndicats, vous parlez de qui exactement ? Parce que est-ce que il vous semble que les syndicats, les grandes fédérations, confédérations qu'on connaît aujourd'hui, s'emparent de ces sujets ou justement pas ? Ou est-ce que vous avez l'impression que vous arrivez à travailler tous ensemble pour vous approprier ces thématiques ?
En fait, ça arrive, hein, notamment avec la loi climat et résilience où on a la GPEC qui commence à intégrer la question environnementale, etc. Donc c'est de plus en plus le rôle des syndicats d'aller vers la question de la transformation écologique des compétences, quoi.
Non, effectivement, je pense que la question des syndicats est fondamentale aujourd'hui, qu'on a besoin d'aider les syndicats à opérer eux-mêmes leur propre redirection et à s'approprier ces tâches-là. Et effectivement, à montrer qu'il n'y a pas forcément de hiatus entre les questions, les enjeux environnementaux, les enjeux, moi, je dirais, de redirection et les enjeux liés au travail, mais qu'en fait, le travail est une dimension extrêmement importante de la redirection, parce que l'enjeu, ce n'est pas uniquement de demain basculer vers des activités vertes qui seraient comme ça des activités autosuffisantes ou qui seraient en elles-mêmes vertes et puis il y aurait des activités pas vertes de l'autre. La question, c'est que deviennent nos activités en général, que deviennent nos organisations en général, que deviennent nos institutions en général, quels arbitrages on réalise pour savoir ce qu'on maintient, ce qu'on ne maintient pas. Et donc, dans cette perspective-là, qui s'applique à toutes les organisations, à toutes les institutions, eh bien, les travailleurs et travailleuses ont leur mot à dire, sont bien placés pour savoir ce qu'on doit maintenir, ce qu'on ne doit pas maintenir, à quelles conditions, comment y prendre part.
Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Le travail est évidemment un enjeu fondamental de la transition, mais est-ce qu'il ne faut pas entendre ceux qui disent que ce ne sera pas simple, entendre ceux qui agitent le chantage à l'emploi pour repenser en fait les stratégies d'action ? Je vous fais écouter un autre petit extrait.
L'action est maintenant un impératif à la fois individuel et collectif. Et il faut construire des rapports de force.
Et s'il faut choisir entre rester dans la légalité ou sortir du système, eh bien nous en sortirons.
C'est un extrait d'une manifestation d'une marche climat et où évoquait la question de la désobéissance civile dont on parle quand même pas mal ces derniers temps. Vous avez le choix, Anne, de monter un syndicat qui est vraiment une institution de l'entreprise dans toute sa légalité. Qu'est-ce qui fait que vous avez fait ce choix-là et qui vous semble qu'aujourd'hui, c'est l'endroit où vous aurez sans doute l'influence la plus importante ?
J'ai pas vraiment fait le choix en me disant où est-ce que j'ai le... J'entends souvent ça, hein, où est-ce que j'aurai le plus d'impact, etc. Souvent, ça provoque vraiment des vrais nœuds au cerveau chez toutes les personnes qui se posent cette question-là. Moi, je me suis engagée dans mon entreprise. J'ai vu que l'action individuelle que j'avais était peanuts, voire empêchée, voire absolument pas, finalement, en fait, me convenait pas, quoi. Individuellement, avec son petit bâton de pèlerin, on fait pas grand-chose, quoi. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette question de l'action collective. Et l'action collective, quelle que soit la façon dont elle s'exprime, c'est-à-dire dans les entreprises, avec des gens qui se syndiquent, qui se regroupent et qui portent des revendications, qui portent des propositions. Parce que c'est pas que de l'opposition, hein, c'est aussi se dire, en fait, l'entreprise, elle doit bouger dans tous les cas. Si elle bouge pas, elle est globalement quand même... elle est pas en bonne voie, quoi. Donc cette question de l'action collective en entreprise... avec un syndicat, pour moi, elle a un peu coulé de source au fur et à mesure de mon engagement. Et après, je trouve qu'elle est extrêmement complémentaire avec toutes les autres formes d'action, que ce soit la désobéissance civile, que ce soit dans des partis politiques, que ce soit dans la rue, dans des associations. C'est extrêmement complémentaire. Il faut que toute la société bouge, que toutes les parties prenantes bougent et que tout le monde s'engage par où il peut s'engager, finalement. Et juste pour terminer, mais la question du syndicat, c'est... Ça, je pense que c'est quand même pas assez répété, c'est que le syndicat, c'est quand même l'outil qui permet en entreprise d'aller négocier des accords contraignants avec les entreprises. Donc c'est une vraie voie légale qui permet d'aller relativement loin dans ce qu'on peut apporter en termes de transition écologique.
Et est-ce que vous avez une action commune en fonction des entreprises peut-être ou... Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais avec des mouvements comme celui des collectifs, qui sont les mouvements spontanés de salariés, qui se lient autour de la question environnementale, mais qui qui ne choisissent pas le syndicalisme ou qui choisissent peut-être les deux, parce qu'il y a peut-être d'ailleurs des salariés syndiqués qui sont dans les collectifs. Comment vous voyez votre articulation avec ces autres acteurs ou avec des ONG qui travaillent en dehors de l'entreprise mais qui essayent de la transformer depuis l'extérieur ?
C'est fondamental. Enfin, c'est-à-dire que si chacun prend son petit bâton de pèlerin, même collectivement, chacun dans son mouvement ou chacun dans son organisation, ça va pas fonctionner. Donc nous, on rassemble des gens qui, un, sont convaincus quand même qu'il y a un problème et que les entreprises sont au cœur de cette équation. Deux, c'est des gens qui ont conscience que leur lieu de travail peut être un lieu d'engagement et que finalement, ils se retrouvent aussi dans une certaine dissonance cognitive, donc ils ont envie d'agir à la fois côté perso et pro. Et c'est aussi des gens qui ont envie de se rapprocher d'autres gens qui ont la même conviction, quoi. Et donc de vouloir actionner ce levier collectif. Et donc, dans cette optique-là, c'est des gens qui vont être dans les collectifs, qui vont être aussi à Point Vert Réveil écologique, qui vont être dans une multitude d'organisations qui agissent. Donc les liens, ils sont fondamentaux, d'autant plus que nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a quand même un manque dans l'entreprise de... c'est pas très poreux à la société civile, quand même, une entreprise. C'est-à-dire que c'est là, on a un peu l'impression parfois que c'est en dehors de la société. Alors que... je pense que ce qui serait extrêmement important et intéressant, c'est qu'il y ait de plus en plus d'associations qui interviennent en entreprise sur tout un tas de sujets, parce que l'expertise de la transformation écologique, elle est aussi beaucoup dans les assos qui militent sur le terrain depuis des années. Et donc il y aurait, nous c'est ce qu'on essaye de faire aussi, d'être un espèce de pont entre les associations et toutes les organisations qui sont un peu en dehors de l'entreprise, qui poussent du dehors pour les faire entrer aussi à l'intérieur et voir comment ils peuvent agir de l'intérieur. Donc c'est extrêmement complémentaire, en fait, toutes ces initiatives.
Peut-être pour enchaîner là-dessus, effectivement, et puis il y a un enjeu à l'inverse pour aider ces collectifs qui sont des lanceurs d'alerte, qui poussent aussi pour la prise en compte de certaines questions dans la société, à se rapprocher des syndicats, des collectifs de travailleurs, etc., pour que leur demande d'écologiser le travail, certaines activités, ne soit pas perçue aussi comme des demandes hors sol. Et là, au contraire, arriver à faire un front commun entre les syndicats, les travailleuses et travailleurs et effectivement ces associations, ces ONG, c'est un élément qui est absolument, absolument fondamental. Tout à fait.
On a évoqué la question des institutions dont on a besoin pour prendre les arbitrages liés à la transition ou à la redirection. Quel regard vous avez sur nos institutions actuelles et leur mode de fonctionnement ? Et est-ce qu'elles semblent suffisantes, nécessaires pour traiter en fait, de ces sujets ?
Il y a une autre vision de la démocratie, qui est la vision un peu à la John Dewey, le philosophe américain pragmatiste, qui dit que voilà, la démocratie, ce n'est pas uniquement le vote, la délibération, mais c'est aussi la capacité finalement à se saisir de certaines questions et à mener en fait des enquêtes. Et ça, je pense que se poser la question de la viabilité, la pérennité de son activité, ça peut être le fait d'un certain nombre de collectifs qui interrogent justement ce type de questions, et ça peut être aussi le fait justement des organisations perçues comme des collectifs d'enquête qui vont se poser la question de leur propre viabilité. Et c'est là qu'on peut avoir justement une entrée qui ne soit pas hors sol pour écologiser les pratiques et les activités, et qui permette de se poser la question de ce qu'on va pouvoir garder et ce qu'il va falloir abandonner. Et ça, c'est une question en fait qui n'est pas hors sol au sens où elle concerne, encore une fois, l'ensemble des organisations aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement les stations de ski qui se voient privées du ski.
Anne, sur cette idée d'enquête et l'idée potentiellement que les syndicats puissent nourrir d'autres missions, d'autres actions qui étaient la leur jusqu'à maintenant, est-ce que ça vous parle ? Vous évoquiez tout à l'heure plutôt la question de la négociation collective. C'est quoi les outils aujourd'hui qui vous semblent les plus pertinents à mobiliser pour agir sur ces sujets ?
Il y en a plein. Nous, sur cette question de démocratie, il y a quand même un point qu'on amène régulièrement, c'est de dire l'entreprise, elle n'est pas en dehors de la société et les choix technologiques qu'elle fait, les choix stratégiques ont un impact fort sur nous, sur les conditions d'habitabilité de notre planète, quoi. Donc ces choix-là, ils doivent être mis au débat, ils doivent être démocratisés en quelque sorte. Et donc c'est le travail des syndicats de mettre parfois l'alerte, mais aussi de vraiment poser les questions de façon rationnelle en disant est-ce que en fait quand on prend tel choix technologique qui va s'appliquer à toute notre population, est-ce que c'est pertinent, quoi. Donc c'est plutôt comme ça qu'on le voit, en disant nous on a aussi cette vision terrain de ce qui se passe dans l'entreprise, comment est-ce qu'on peut l'amener aussi dans le domaine public pour la questionner, quoi.
Je vous passe un dernier extrait que j'avais envie de vous faire écouter d'un documentaire des années 70, d'un colloque d'industriels réunis autour de la question environnementale.
Je crois qu'il faut oser dire que c'est au cadre des entreprises, eux-mêmes, au cadre, de poser ces problèmes lorsqu'ils s'y éveillent, et maintenant de plus en plus ils s'y éveillent, pour prendre conscience à la fois de leur responsabilité morale, de leur co-responsabilité, je dirais, pour tout ce qui est du devenir humain, de la protection de l'homme, pour le coup, et je dirais aussi de leur puissance, de leur capacité, car ils sont les mieux placés et de très loin pour poser ces problèmes. Bien souvent du reste, et la plupart du temps, ils sont les vrais maîtres de l'entreprise. Mais ils ne veulent pas prendre conscience ni de leur puissance, ni de leur responsabilité.
Non mais il est super intéressant cet audio, parce qu'il dit que c'est au cadre de prendre vraiment le sujet en main. Je suis absolument pas d'accord, quoi. On en parlait tout à l'heure de tous les métiers qui sont dehors, dans le BTP, etc. Ces gens-là, bah, ils sont en première ligne aussi. Et nous, on a des exemples très concrets en usine de transformation, d'outils de production avec des choix technologiques forts, en fait. Et on a des salariés ouvriers, corps intermédiaires, qui disent, en fait, on n'est pas d'accord avec ce changement d'outils de production. Et en fait, on en revient un peu à ce qu'on disait avec Alexandre, c'est que, en fait, tous les salariés, sur leur outil, là où ils sont, au travail, ont une voix légitime pour parler de transformation écologique.
Et qui sont aujourd'hui, vous, vos adhérents? Est-ce que vous arrivez à avoir un peu le profil des gens que vous regroupez? Et finalement, au nom de qui vous parlez aujourd'hui dans les organisations quand vous avez des représentants du personnel qui sont élus?
Alors, on parle souvent, on a des listes qui se présentent aux élections professionnelles et qui sont élus depuis relativement peu de temps. Parce que pour être un syndicat capable d'être représentatif, il faut 2 ans d'ancienneté. Donc ça fait un peu plus de 6 mois. Donc on a des listes élues aujourd'hui. Donc on est souvent sur les 3 collèges. Donc on parle, c'est autant des femmes que des hommes, autant des jeunes que des moins jeunes, des cadres, des ouvriers. On regroupe, c'est assez divers. Parce que finalement la question écologique, elle rassemble énormément. Et plus que ça, c'est une question écologique et sociale. Mais on voit que ça rassemble malgré tout ce qu'on peut dire sur c'est une écologie de bobos, c'est une écologie de citadins. C'est pas vrai, quoi. Nous, ce qu'on voit, c'est que dans les entreprises, tout le monde est concerné et tout le monde essaie en tout cas, je dis pas tout le monde, mais il y a quand même une grande partie des salariés concernés et qui ont envie d'agir, quoi.
Sur cet extrait, il est intéressant. Alors, je rejoins tout à fait Anne quand elle expliquait que ces enjeux de transition en redirection concernait l'ensemble des salariés, des métiers, des travailleurs et des travailleuses, parce que, encore une fois, aussi, c'est certains qui ne sont pas salariés. Il me semble typique aussi d'un temps, les années 70, ces travaux de James Burnham à l'époque, où justement il y avait un conflit dans l'entreprise pour savoir si l'entreprise appartenait aux managers ou finalement aux actionnaires. Et finalement, ce conflit s'est résolu plutôt en intéressant les managers, les top managers, au profit, en leur donnant des actions, des stock options. Donc du coup, ils se sont rangés plutôt du côté des actionnaires. Mais c'était aussi pour marquer le fait qu'il y avait une tension et savoir où était le lieu de pouvoir pour pouvoir justement peser sur ces enjeux, on va dire, de redirection écologique. Je pense qu'on n'en est plus là. Il faut effectivement élargir, encore une fois, la focale, comme l'a très bien dit Anne. Par contre, aussi se poser la question du rapport de force et de comment on peut peser, qui détient le pouvoir dans les entreprises. On peut retrouver ce type de questionnement quand, par exemple, on a des entreprises qui disent « oui, nous, on voudrait aller beaucoup plus loin, renoncer à certaines activités, mais nous avons des actionnaires ». Plutôt que ce soit le terme de la discussion, on met fin à la discussion parce qu'on sort du chapeau comme ça la question des actionnaires en disant « finalement, on ne peut pas agir », il faudrait que ça devienne le début finalement de la discussion et qu'on se dise « comment est-ce qu'on peut travailler avec les contraintes réelles qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont celles des organisations aujourd'hui, pour justement pouvoir peser et emprunter d'autres directions ».
Quel regard vous avez aujourd'hui sur les mouvements qui viennent justement plutôt des dirigeants, de représentants de l'entreprise, que ce soit la Convention des entreprises pour le climat, les sociétés B Corp, les entreprises à mission? Est-ce que vous avez quel regard et est-ce que vous avez l'impression que dans ces sociétés-là, il est plus facile d'agir ou pas du tout? Est-ce que vous échangez parfois avec ces acteurs-là?
Moi, de mon côté, j'échange régulièrement avec des directions, quelles qu'elles soient, certaines très sensibilisées et d'autres pas du tout. Je dois dire qu'il y a quand même beaucoup plus de directions pas du tout sensibilisées ou pas du tout, ou pas suffisamment conscient de la marche à franchir pour arriver aux objectifs. Mais c'est clair que ça doit venir des deux côtés, c'est-à-dire que ça doit venir de toutes les parties prenantes de l'entreprise, que ce soit les actionnaires, que ce soit les directions, que ce soit les salariés, et ça doit être un mouvement global, sinon ça va pas fonctionner et puis l'entreprise n'ira nulle part, quoi. Je vois pas. Mais bon, nous ce qu'on fait en tout cas, c'est ok, on accompagne des salariés à agir, on les accompagne à se présenter aux élections professionnelles et on les accompagne en fait à porter ce message-là auprès des directions une fois qu'ils ont un mandat. Sur des actions très concrètes, ce que je disais tout à l'heure sur transformation de chaudières pour produire des croquettes ou des immeubles, la construction de nouveaux immeubles, quoi. Donc vraiment, ça c'est... Mais c'est sûr que ça doit aller ensemble. Parfois, il y a un peu un déséquilibre. Parfois, c'est plus la direction qui pousse. Parfois, c'est plus les salariés. Mais voilà, ça doit être global, quoi.
Effectivement, la question de, du développement de... d'entreprises en bicorp, d'entreprises à mission, de collectifs de salariés, de collectifs de dirigeants, c'est une problématique tout à fait intéressante. On ne peut pas forcément d'ailleurs tout mettre dans le même sac parce qu'on a là des approches qui sont assez contrastées. Par exemple, les groupes de salariés, c'est très bien, mais si ça évite de se syndiquer, si c'est une alternative au syndicalisme, ça peut être problématique. Donc, il y a une question aussi de qui sont les personnes qui vont dans ces collectifs-là, quels sont leurs modes de politisation et est-ce qu'on peut arriver finalement à créer des passerelles entre ces collectifs et les syndicats pour d'ailleurs se renforcer. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent basculer intégralement vers les syndicats, mais voilà, aussi acquérir peut-être une culture que ces personnes-là n'ont pas du fait aussi de leur profil socio-économique. Donc là, il y a un travail aussi d'alliance, d'acculturation des deux côtés, hein, d'ailleurs, qu'il faut réaliser. Et puis après, il y a un autre enjeu qui est important, c'est celui effectivement des filières, c'est-à-dire de dépasser aussi, ça a été mentionné au début, hein, simplement le prisme des organisations, parce que tout effectivement ne va pas se jouer au seul niveau des organisations, et qu'une des questions qui peut se poser, c'est du devenir de certaines filières, mais parfois il y a une plus grande facilité à aborder des enjeux stratégiques à l'échelle de filière qu'à une échelle individuelle. J'ai par exemple, je suis en contact avec les gens de Sinon Virgule, qui est une entreprise qui a été cofondé par un ancien étudiant du master que je dirige, Joseph Sournac, et eux ont écrit un rapport pour les assureurs, un ensemble d'assureurs, pour questionner le devenir de l'assurance dans l'Anthropocène ou face à l'effondrement. L'assurance dans l'effondrement ou l'effondrement de l'assurance. C'était un petit peu leur angle d'attaque. Et ce qui est intéressant, c'est que pour faire ce travail-là, il a fallu justement ne pas s'adresser à un acteur, à une organisation, mais le faire à plusieurs acteurs, à la filière d'une certaine manière, pour minimiser les risques financiers qu'un tel travail représentait. Et parce que, tout simplement, individuellement, ce sont des acteurs qui peuvent considérer que le problème le plus urgent, c'est la concurrence ou les problèmes du quotidien, et que effectivement il y a des enjeux stratégiques sur lesquels il faut travailler, mais que c'est à plus long terme et que finalement il y a besoin de les rassembler, de passer à une échelle supérieure, échelle encore une fois ici proto-échelle d'un secteur, pour pouvoir les aborder. Donc parfois aussi il faut ce décalage-là pour pouvoir s'emparer de questions qui sont reconnues comme étant des questions stratégiques par les acteurs, mais sur lesquelles ils ne sont pas forcément prêts encore à s'engager individuellement parce qu'il y a cette idée, cette croyance que le plus urgent, c'est le concurrent. Ce qui n'est pas forcément vrai, hein, parce que le secteur peut être en train de s'effondrer et puis voilà, on triomphe temporairement de son concurrent, mais ça n'amène pas forcément très très loin. Donc voilà, ça peut être effectivement problématique. Et peut-être juste là-dessus aussi pour rebondir sur le fait qu'il faut qu'on s'adresse, effectivement, comme le disait Anne, et continuer à sensibiliser les directions, les acteurs. Et il faut aussi qu'on soit en capacité de s'adresser à des acteurs qui ne sont pas sensibilisés, mais qui rencontrent quand même des difficultés, qui rencontrent des murs et qui se rendent compte que leurs activités ne sont pas pérennes, ne sont plus pérennes. Voilà. Et l'angle d'entrée pour aborder ces questions-là peut être la sensibilisation. Moi, je pense que c'est limité, par ailleurs. Mais ça peut être aussi le fait d'être tout simplement pris par des enjeux auxquels on n'était pas préparé. Et ce qui est intéressant, parce que c'est-à-dire que ce sont des collectifs, des personnes, des dirigeants, des salariés, des organisations qui aujourd'hui n'ont pas les outils, les moyens intellectuels et opérationnels pour faire face à ce type de perspective. Et c'est là qu'il faut apporter justement une aide, et c'est ce que peuvent faire peut-être les collectifs de salariés, les syndicats, et puis d'autres acteurs qui peuvent voilà, comme ça essayer d'apporter des outils, des approches pour faire face à ces situations qui ne sont pas forcément inattendues pour tout le monde, mais qui étaient inattendues en tout cas pour ceux qui y font face sans préparation.
Anne, est-ce que vous voulez rebondir sur la question de la filière ?
Oui, bah, ça tombe bien parce que les syndicats sont organisés souvent comme en syndicats sectoriels. Nous, ce qu'on voit, c'est que spontanément, en fait, les adhérents se regroupent par organisation similaire. Quoi. On a des gens qui sont d'entreprises de la tech. Alors, c'est assez spécifique. C'est des entreprises d'une certaine taille, de certains secteurs, dans des entreprises des télécoms. Avec toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire des gens qui vont installer les antennes jusqu'aux gens qui sont informaticiens, voilà. Et donc ça, c'est vachement intéressant parce que c'est là où il y a des échanges qui se font entre salariés d'un même secteur qu'on peut sortir des problématiques et des solutions. Et effectivement, c'est cette vision-là qu'il faut avoir plutôt que donc intrasectoriel, intersectoriel. Puis c'est comme ça que, à mon avis, c'est extrêmement pertinent, tout en gardant vraiment du très très concret au jour le jour, ce que font tous les représentants syndicaux, mais de cette étude d'impact au niveau de l'entreprise, quoi.
Ça permet effectivement aussi d'éviter cette idée que la transition, c'est effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, on a évité de le dire, l'affaire des cadres, ce qu'on ne pense pas, mais qui est quand même un cadrage qu'on peut retrouver, y compris dans certaines organisations, y compris dans certains think tanks, y compris dans certains collectifs, où il y a une surreprésentation de certaines classes sociales. Si on peut arriver à l'échelle d'un secteur, effectivement, à embrasser finalement tous les niveaux de la hiérarchie et des métiers, effectivement, c'est tout à fait intéressant. Ça permet aussi d'associer, comme étant des acteurs de ces transformations, des gens qui sont plutôt relégués quand même au niveau des discours sur ces transformations.
Je vous pose une dernière question. Pour chacun d'entre vous, vous avez une minute maximum pour me répondre. Si vous aviez une baguette magique pour faire basculer les entreprises, vous feriez quoi ?
Je commence. Eh bien, moi, j'aurais une baguette magique qui permettrait en fait de dissoudre cette membrane qui est l'organisation, qui est l'entreprise, parce que souvent, c'est ça en fait qui empêche des redirections réelles et efficaces. On pourrait tout à fait repenser les activités, le travail des travailleurs, des travailleuses et des salariés pour faire autre chose demain, pour assurer la maintenance de ce qui doit être maintenu ou de ce qui ne doit pas être maintenu, pour opérer ce type d'arbitrage. Ce qui va rendre ça difficile finalement, c'est cette membrane qu'est l'organisation, qui en fait finalement un actif financier parfois. Et donc, si on pouvait comme ça dissoudre cette membrane et opérer des formes d'autogestion écologisée, je pense effectivement qu'une partie du problème disparaîtrait. Donc, comment réaliser ça? C'est pas facile, mais il faut y travailler. Et plutôt que d'en faire une utopie à très long terme impossible à atteindre, ben voilà, mettons les mains dans le cambouis et réussissons dès maintenant avec les salariés à refondre complètement le périmètre des organisations, la démocratie des organisations, à remettre peut-être au cœur cette forme écologisée, comme j'indiquais, d'autogestion. Et là, effectivement, on aura des leviers pour agir de façon extrêmement profonde et radicale à l'échelle entière de la société.
Et de mon côté, je pense que si j'avais une baguette magique, je formerais en masse salariés et direction. On demanderait aux salariés, à l'ensemble des salariés, ceux qui connaissent leur métier, en fait, de se demander comment est-ce qu'on transforme tout ça. Évidemment, avec les directions, il ne faut pas que ce soit que les salariés qui portent le sujet. Il faut vraiment que ce soit global, mais qu'en fait, sur une même base commune de connaissances, un peu ce que fait la Convention des entreprises pour le climat, enfin, la Convention, pardon, citoyenne pour le climat, en fait, comment sur une base commune, on prend des mesures efficaces, voilà.
Oui, juste là-dessus, effectivement, je pense qu'il faut qu'on se rende compte aujourd'hui, les salariés et direction. Il y a effectivement la vision lutte des classes qui oppose les salariés et direction, mais d'une certaine façon, les directions sont aussi souvent salariés, et que derrière, il y a de plus gros poissons, de plus gros prédateurs que sont par exemple les gestionnaires d'actifs. Et si on veut opérer ces transformations, il faut aussi qu'on contrecarre ces acteurs-là, et que peut-être que les directions et les salariés, quels que soient les niveaux, ont un intérêt en réalité à le faire. Donc voilà, en tout cas, c'est un programme qu'il faut essayer d'esquisser, je pense.
Si j'ai une deuxième baguette magique, oui, effectivement, peut-être une rémunération de l'actionnariat complètement limitée par des indicateurs environnementaux. Voilà, je pense qu'il y a un gros sujet effectivement sur le financement et de dire qu'en fait la performance d'une entreprise, c'est pas ça, uniquement sa performance économique, c'est aussi sa performance écologique. L'appel, c'est aussi aux 26 millions de salariés en France à se syndiquer et à s'engager sur cette transformation écologique des organisations et de leur entreprise. Et on a tous un pouvoir d'action et le levier syndical peut être extrêmement efficace en tant qu'action collective pour faire bouger nos entreprises.
Effectivement, cet angle du syndicalisme, du travail comme un lieu privilégié où se joue la redirection écologique, je pense qu'il est d'autant plus important aujourd'hui que tel que le débat est posé, tel qu'il a été posé, notamment dans le sillage des appels à la désertion des jeunes étudiants et étudiantes qui ont quitté les écoles d'ingénieurs, l'école d'architecture, etc. Ça, et souvent d'ailleurs après leur diplomation, pas avant, quand même juste le redire, hein, c'est pas une critique, mais il faut juste le redire. Ça dit qu'entre le business as usual, à l'intérieur des organisations, on serait absolument impuissant à agir, on dégraderait la planète, l'environnement et la désertion, plutôt d'ailleurs de gens jeunes qui vont aller dans les champs pour travailler. Il y a un espace, justement, pour opérer des redirections aussi de manière radicale et qu'il faut absolument réinvestir. Sinon, comme l'indiquait Anne, ben, c'est 26 millions de personnes à l'échelle de la France, finalement, qu'on considère comme n'étant pas des gens qui ont leur mot à dire sur ces questions, qui ne peuvent pas opérer des formes de redirection. Et donc, ça veut dire aussi qu'on limite notre action possible à la marge. Et d'ailleurs, il peut tout à fait y avoir des synergies entre ces appels à la désertion de jeunes ingénieurs qui mettent la pression sur les organisations et des gens qui restent à l'intérieur des organisations et qui se servent de cette pression pour faire bouger aussi leur organisation. Il vaut mieux une stratégie, comme je dis, en tenaille, plutôt que de tirer dans des sens opposés. Donc voilà, ça c'est, je pense que c'est intéressant, et même pour les jeunes qui ne se projettent pas aujourd'hui dans l'idée que via le travail, on peut aussi se ressaisir de ces questions de l'écologisation des activités, des arbitrages qu'on va porter, ça leur ouvre aussi d'autres perspectives.
Merci à tous les deux pour cet échange. Si ça vous a donné des envies d'activisme, écrivez-nous à maintenant@gmail.com et la fin de cet entretien, c'est maintenant.